بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي toutes les louanges reviennent à Allah عز وجل qui nous donne la possibilité de consacrer un peu de temps d'écoute pour étudier quelques versets du Coran et quelques hadiths concernant un sujet qui effraie les populations, les civilisations, les êtres humains, de façon générale, toute époque confondue, al-maut, la mort. Et nous étudions depuis quelques mois un ouvrage de Allama al-Suyuti, rahimahullah, concernant justement l'agonie de la mort, le moment où l'âme se sépare du corps, et les étapes qui viennent juste après le décès donc de la personne, de l'être humain, et étapes bien sûr concernant la tombe et les différentes étapes et les questions qui seront posées aux mu'mines, mais également aux kafirs dans la tombe. Et le dernier point qu'on avait commencé à aborder à Montreuil il y a à peu près 2 mois, c'est un thème assez surprenant qui risque de surprendre ceux qui n'ont pas vraiment compris la réalité de « La ilaha illallah » Muhammad Rasulullah. Ce chapitre s'intitule Bab Fadlul Mauti, les vertus de la mort. Nous comprenons qu'il y ait des vertus pour les bonnes œuvres, pour les bonnes actions, pour l'abandon des péchés, mais des vertus concernant la mort, nous découvrons chaque jour, chaque mardi soir, lorsqu'on fait ces durous, nous découvrons des textes, des versets du Coran, avant tout bien sûr des hadiths, mais également le témoignage de pieux prédécesseurs concernant la mort et le rapport avec cette situation qui est prévue pour chaque personne qui vient dans ce monde que l'on appelle Da'iqatul Maut. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir le rapport qu'ils avaient avec la mort. Nos pieux prédécesseurs ne craignaient pas la mort, subhanallah, bien au contraire, ils décrivaient la mort comme un moment important qu'ils attendaient pour rejoindre le Seigneur Azza wa Jal. On avait vu dans le chapitre juste avant Fadlul Maut le fait que le mu'min ne doit pas souhaiter la mort à cause d'une épreuve ou d'une difficulté. Et on a eu l'occasion en quatre séances à peu près de rappeler le principe que la mort est une fatalité, que le nafsi da'iqatul maut, comme on vient de le dire, mais le mu'min ne doit en aucun cas souhaiter que la mort arrive rapidement pour mettre fin à une difficulté ou à une épreuve. Bien au contraire, le mu'min qui vit une épreuve doit réaliser que c'est là une situation qui a été créée par Allah Azza wa Jal. Et il y a différents objectifs, le faire atteindre un haut degré qu'il n'aurait peut-être pas pu atteindre par ses bonnes œuvres. Allah Rabbul Izzah utilise cette épreuve pour takfir al-khataya wa sayyi'at, pour le purifier de ses péchés, mais également cette épreuve a pour but de le faire obtenir énormément de récompenses à partir du moment où il se montre patient et il s'en remet à Allah Azza wa Jal et il sait donner un sens à cette épreuve. Nous prononçons ces paroles à un moment crucial où nous en sommes à notre 16e jour de confinement en France métropolitaine mais également à l'île de la Réunion et à peu près 3 mois ou 3 mois et demi depuis l'apparition de ce fameux Covid-19 en Chine. Donc, et au moment où nous parlons, nous avons des frères et sœurs qui sont hospitalisés, d'autres qui sont déjà atteints par le virus, mais alhamdoulilah d'une forme peu sévère, qui sont donc chez eux. Et nos doigts, nos invocations sont tous orientés vers ces personnes, qu'Allah Rabbul Izzah leur accorde la santé rapidement et qu'il n'ait aucune séquelle. Mais justement, ikhwan fillah, personne... voilà, on va faire une petite comparaison entre la mort et une situation d'épreuve qui est angoissante, comme cette maladie qui est devenue un peu la phobie de tout le monde. Bien sûr, le mu'min ne doit pas souhaiter tomber malade. Ça, c'est quelque chose qui ne nécessite même pas de rappel. Mais si Allah Azza wa Jal a décrété qu'une personne soit atteinte par cette maladie, cette personne qui sera donc éprouvée par ce virus doit réaliser que cela est une épreuve de la part d'Allah Rabbul Izzah. Ce n'est pas les conséquences d'un manque de précaution ou d'un malheureux, une situation malheureuse où il a croisé quelqu'un ou autre chose. Non, bien au contraire, il doit réaliser que s'il a fait doua, bien sûr, de protection, pour qu'Allah ne, ne l'éprouve pas par cette maladie, pour qu'Allah le garde sous sa protection, et que la personne a pris les ihtiyat, les mesures nécessaires, mesures barrières, et respecter le confinement, et ainsi de suite. Ce sont des choses, des éléments qu'on connaît, et qu'on a eu l'occasion d'en parler, de développer l'importance de ces gestes barrières, et que malgré tout, la personne se voit éprouvée par cette maladie. Ce mu'min doit réaliser que sa situation à lui est différente de celle de dizaines, de centaines, de milliers de personnes qui sont atteintes. Il faut vraiment qu'on arrive à intégrer que cette maladie qui fait partie de l'armée d'Allah, l'armée invisible de notre Seigneur sur cette terre, ben elle descend et elle aura un but, un maqsad, une sagesse qui sera différente d'une population à l'autre, d'un individu à un autre. Pour certains, peut-être. Ça peut être un châtiment à cause d'oppression ou d'injustice qu'ils ont pu commettre. Et Allah seul le sait, nous n'avons pas interprété les décrets divins. Pour d'autres personnes, ça peut être l'expiation de leur faute, peut-être une quantité de péchés cumulés qui seront effacés de façon instantanée par cette épreuve. C'est ce que nous rappelions tout à l'heure, takfiru sayyi'at wal khataya. Et pour d'autres personnes qui n'avaient pas commis de péchés graves, des gens qui étaient dans plus ou moins dans la religion, accrochée à la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est une épreuve par laquelle Allah va augmenter le grade. Et le plus important, c'est que le cœur du mu'min, le cœur du croyant, soit avec Allah Azza wa Jal. Donc on disait que cette maladie, ce virus, peut avoir une portée et une sagesse différentes pour chaque individu qui en sera atteint et éprouvé. Ainsi, on essaie d'éviter, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas tomber malade, bien sûr, mais si cela nous arrive, ben, on l'accepte, on donne un sens, comprendre que Allah veut quelque chose pour nous, et on se montre patient jusqu'à ce qu'Allah délivre la personne de cette maladie. Maintenant, si on fait une comparaison avec la mort, personne ne doit souhaiter la mort. Et le fait d'être atteint par une épreuve ne doit surtout pas faire naître en nous l'idée ou nous faire prononcer une parole malheureuse que il vaut mieux mourir plutôt que de vivre cette situation. Et on a eu l'occasion d'entendre des plaintes de certaines personnes parfois qui souffrent d'un manque de confiance et de conviction dans Allah Azza wa Jal et qui ne réalisent pas peut-être la portée de leur parole et qui parlent un peu en désespoir, mais ce n'est pas la façon d'agir du croyant. Certaines personnes qui sont tellement éprouvés par, non pas par la maladie, mais par le confinement, par le fait qu'ils doivent rester chez eux, ça fait 15 jours, et certains osent dire que autant mourir que de vivre une situation comme ça, dans une prison, on ne peut plus sortir, on ne peut plus vivre normalement. Ce sont des paroles quand même lourdes en conséquence. Ce sont des paroles très lourdes en conséquence, et le croyant se doit de réfléchir avant de prononcer de telles paroles, parce que, subhanallah, entre rester chez soi et être confiné, et être atteint par la maladie, tout en étant chez soi, c'est une autre étape. Avoir les symptômes, souffrir chez soi. Et étape suivante, avoir la maladie et être hospitalisé. C'est-à-dire, le soir, tu dors à l'hôpital. Ce qui n'est pas chose facile, qu'Allah nous protège et délivre nos frères et sœurs qui sont atteints et l'ensemble de ces créatures. Et l'étape suivante, la plus difficile, la quatrième étape, c'est être incubé, être sous assistance respiratoire, et Allah seul sait pour combien de temps, 10 jours, 15 jours, 1 mois, avec parfois des séquelles et difficultés, plus d'un an parfois pour récupérer, si les personnes s'en relèvent. On doit relativiser et réaliser que même si c'est une situation un peu complexe que nous vivons, mais en aucun cas le croyant ne peut se permettre de se plaindre et souhaiter la mort. Parce qu'on avait vu, c'est un bab qu'on avait étudié, comme on a dit, où le prophète alayhi salatu wassalam a interdit aux croyants de demander à Allah la mort à cause d'un bala nazalabihi, à cause d'une épreuve, aucunement. Parce que ce serait une manifestation de ça montrerait que la personne n'a pas confiance en Allah et ne réalise pas que les situations sont créées par Allah pour une sagesse et que la personne préférait mourir que de continuer à vivre l'épreuve qui a été prédestinée par Allah. Donc, après avoir eu ce chapitre, nous avons donc commencé par favoriser les vertus de la mort, et on a eu l'occasion de voir certains textes qui rappellent que ce dunya n'est en fait qu'une prison. Pour le croyant, la délivrance du croyant, c'est retourner auprès d'Allah. Et là, ça prend tout son sens quand on parle de cette maladie et on parle de la mort. Ne pas souhaiter la mort, certes, mais si un croyant arrive à une situation où il vit ses derniers jours, la personne ne doit pas être désespérée de ne plus pouvoir jouir des yamudunya de ce monde, ou d'être séparé de ses biens, ou d'être séparé de sa famille, et ainsi de suite. Aucunement. Bien au contraire, quand on passe à l'étape ultime, quand le croyant réalise qu'il vit ses derniers jours, ben, le simple fait de savoir qu'il lui reste quelques jours, quelques semaines, ou elle est dans ce qu'on appelle le maradul mort, une situation critique, ben, ça doit permettre au mu'min de s'accrocher encore plus à Allah Azza wa Jal et d'attendre ce moment. Et les pieux prédécesseurs attendaient le moment où ils allaient rencontrer Allah Azza wa Jal. Donc on reprend, ils ne souhaitaient pas la mort, bien au contraire, comme on a vu dans les textes, le doua qu'ils faisaient, c'est de vivre longtemps. Et un des plus grands bienfaits, c'est de vivre longtemps en bonne santé, en étant dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, lorsque le moment arrive, le mu'min doit être content et pressé de retrouver son Seigneur, parce que la mort, c'est la délivrance du croyant, mais également la mort, c'est la fin des épreuves de ce dunya, et c'est également la consécration pour le croyant qui va retrouver auprès de son Seigneur des récompenses pour une vie de ta'a, de ibada et de istislam lillahi azza wa jal, de soumission envers Allah Rabbul Izza. Nous allons voir aujourd'hui un hadith rapporté par Ibn Abi Shayba fil Musannaf et d'Abd al-Razzaq également dans son tafsir, et de Al-Hakim de Al-Mustadrak et de Al-Tabarani et d'autres encore. Non, ce n'est pas un hadith, il me semble que c'est un mawquf. Un mawquf, c'est l'avis, l'opinion ou une citation plutôt d'un sahaba. Et là nous avons Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal: ma min nafsin, il n'y a pas une personne qui meurt, que cette personne soit dans le droit chemin, c'est-à-dire croyant, adorateur d'Allah, ou que la personne soit fajira, que la personne soit dans le chemin de l'égarement, de les péchés, de la désobéissance de son Seigneur, illa wal mawtu khayrul laha min al haya. Faut savoir que dans les deux cas de figure, c'est-à-dire dans tous les cas de figure, la mort est préférable pour ces personnes. Fa in kana barran, si c'était quelqu'un de pieux, ben que la personne réalise qu'Allah Rabbul Izzah a dit à propos des pieux: وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ, ce qu'il y a auprès d'Allah est mieux pour les pieux. C'est exactement ce qu'on a développé tout à l'heure. C'est le moment où le mu'min retrouve son Seigneur et obtient enfin les récompenses pour une vie de sacrifice. Ainsi, ô mu'min, si tu es éprouvé par une maladie, qu'Allah nous protège, que ce soit cette maladie ou un cancer ou autre chose, ou que la personne a atteint un âge avancé et qu'elle sait pertinemment que la mort est très proche, et que cette personne, bi'idhnillah, n'a rien à se reprocher, dans le sens où la personne sait pertinemment qu'elle a passé sa vie à obéir aux ordres d'Allah, combler ses salats, ses piliers de l'islam, et bien plus que ça, tout en restant éloigné des péchés, sans que cette personne n'ait de dette ou n'ait fait de mal à quiconque, ben, ce croyant, il doit réaliser qu'il est certainement une des personnes les plus heureuses, parce qu'il est à quelques jours, quelques mois du rendez-vous ultime auprès d'Allah, et Allah a dit: وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَارِ, ce qu'il y a auprès d'Allah est mieux pour les pieux. Et on continue la citation d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dit: وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Sens du verset: que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché et pour eux un châtiment avilissant. C'est-à-dire que la personne qui est dans la désobéissance aux ordres d'Allah, chaque jour qui passe, la personne ne doit pas penser que c'est un jour de plus pour jouir et profiter de la vie. Au contraire, chaque jour qui passe, ça risque d'être un jour où ils vont encore plus désobéir à Allah Azza wa Jal, s'enfoncer un peu plus et augmenter leur quota de châtiment prévu et s'enfoncer un peu plus dans les châtiments de l'enfer, qu'Allah nous protège. Le mawquf, la citation d'Ibn Mas'ud, a pour but de nous faire réaliser que la mort est une délivrance pour l'homme pieux, parce qu'il retrouve son Seigneur, mais également pour le pécheur, parce que c'est joie de chaque jour de ce monde où cette personne continuera à accomplir des péchés. C'est un jour qui va augmenter ses châtiments et avoir plus de conséquences le jour de Qiyam. Donc, cette citation d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu fait naître en nous de l'espoir et nous permet de voir beaucoup plus loin que les objectifs totalement mondains. Réaliser que même s'il y a des situations périlleuses, difficiles que nous vivons, ne jamais perdre de vue que l'objectif final, c'est une mort, husnul khatima, retrouver Allah et être conscient que ce qu'il y a auprès d'Allah est mieux pour moi. Il est mieux de retrouver la promesse d'Allah que de rester dans ce monde avec l'intégralité des biens et des ni'ma qu'Allah a pu nous accorder. On continue. Donc là, on voit la vie d'Ibn Mas'ud et sa conception de la vie et son attente du liqa illa, de la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Nous continuons avec un mawquf également, une citation de Abu Darda radiallahu anhu, là aussi un grand sahaba. Il dit que uhibbu al-faqra tawadhu'an li rabbi. Voilà, c'est une situation qui risque de remettre en question beaucoup de valeurs que nous avons acquis au sein de notre société. Abu Darda, nous sommes d'une société où malheureusement la course aux richesses et la cupidité fait partie des qualités intrinsèques de tout citoyen. Et là, nous avons Abu Darda radiallahu anhu qui dit uhibbu al-faqra tawadhu'an li rabbi. J'aime la pauvreté. J'aime et je préfère la pauvreté afin de me montrer le plus humble auprès de mon Seigneur. Il veut dire que les biens de ce monde risquent de détourner le croyant et de l'éloigner de la soumission totale à Allah Azza wa Jalla. Alors que la pauvreté permet aux croyants de faire preuve encore plus d'humilité auprès d'Allah, parce que la personne qui a le besoin va de façon permanente solliciter Allah, lever les mains et demander à Allah sa subsistance, la protection et ainsi de suite. Ibn Abu Darda continue wa uhibbu al-maut ishtiyaqan li rabbi, et j'aime la mort. La mort est quelque chose qui m'attire parce que c'est j'aime et j'aimerais rencontrer mon Seigneur, et ça rejoint toutes les citations que nous avons citées jusqu'à maintenant. Et Abu Darda dit wa uhibbu al-marada takfiran li khati'ati. C'est vraiment une citation qui tombe subhanallah point nommé avec les ahwal, avec le awdar, les situations que nous vivons. Abu Darda dit j'aime la maladie parce que la maladie me permet de voir mes péchés effacés par Allah Azza wa Jal. Et c'est là que, comme j'ai dit, ça remet en question beaucoup de nos valeurs, et en même temps ça nous permet de comprendre la profondeur de la spiritualité de ces sahabas. Les sahabas, ce n'étaient pas des personnes qui se contentaient d'accomplir des bonnes œuvres spectaculaires et impressionnantes, de longues nuits de ibadah, des jours et des jours passés en état de jeûne, l'aumône en quantité. Certes, ils le faisaient, mais intérieurement, ils avaient une relation avec leur Seigneur qui était profonde et une acceptation du décret divin qui faisait que dans toutes les situations de leur vie, ils étaient satisfaits justement du décret divin. Lorsqu'Allah leur accordait un bienfait, ils étaient reconnaissants, ils remerciaient Allah. Mais lorsqu'Allah envoyait une épreuve, ils étaient également reconnaissants, remerciaient Allah, et ils faisaient preuve de patience. Reconnaissants pourquoi ? Parce qu'ils savaient que quand Allah t'envoie une épreuve, c'est qu'Allah t'a prédestiné quelque chose de précis, et Allah attend de toi quelque chose, une réaction précise pour t'accorder quelque chose de spécial. Et ça, c'est nominatif, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que ton Seigneur s'intéresse à toi et il t'envoie une épreuve mesurée, une épreuve qui est propre à tes capacités de patience, une épreuve à laquelle tu as suffisamment de potentiel pour te montrer sabir, pour te montrer patient, et en compensation et en récompense, en rétribution de cette épreuve qui est vraiment du sur-mesure, il y a une récompense qui est propre pour toi. C'est pour ça qu'Abu Darda dit « Et j'aime la maladie parce qu'elle me permet de voir mes péchés effacés par Allah Azza wa Jal. » Ainsi, je le répète, peut-être pour la troisième fois, en aucun cas, bien sûr, souhaiter avoir le Covid-19 ou n'importe quelle maladie pour voir ses péchés effacés. Jamais de la vie, bien sûr. Hein, la sunna d'Allah, c'est à la afia, demander la santé, le bien-être. Mais si une maladie atteint le croyant, ce mu'min qui a mal à la tête, qui a des courbatures, qui a de la fièvre, qui se sent mal et qui est atteint de faiblesse et ainsi de suite, à peu près les symptômes de ce virus, mais il doit réaliser qu'à chaque fois qu'il ressent cette fièvre ou cette migraine ou qu'il tremble de froid ou qu'il souffre de ces douleurs, ben chaque seconde passée de cette souffrance, c'est une takfir, c'est takfir al-khataya, c'est une expiation de ses fautes et de ses péchés. Et Allah seul sait, si la personne était morte sans cette épreuve, peut-être qu'il aurait rencontré Allah Rabbul Izzah avec énormément de péchés dans son livret de compte. Et comme on a eu l'occasion de dire dans différents programmes tafsir ou aqidah, la pire des choses, c'est de retrouver Allah Azza wa Jal, c'est de se retrouver devant le tribunal d'Allah, en face de son Seigneur, et de se voir reprocher des péchés accomplis de ce monde. C'est-à-dire se présenter devant Allah avec des péchés, péchés pour lesquels on n'a pas pu demander pardon, on n'a pas pu s'en détacher. Ça, c'est la pire des choses. Quand Allah nous fait des reproches pour tel péché accompli, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous protège. Et la maladie a pour but, entre autres, donc, de purifier, de laver le croyant de ses péchés. Donc, à nos frères et sœurs qui sont atteints par ce virus, je le répète, ou n'importe quelle autre maladie, on parle des personnes qui ont un cancer, qui font une radiothérapie, une chimiothérapie, on parle des personnes qui sont dialysées, des personnes qui ont des maladies, je ne veux pas me tromper de terme, auto-immunes, voilà, je cherchais auto-immunes, ou d'autres maladies envahissantes par cycles qui reviennent et qui causent des souffrances, il faut savoir que chaque seconde passée dans une souffrance, dans une épreuve, ce sont des péchés qui sont pardonnés par Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wa salam avait annoncé quel était le seuil de souffrance et de douleur pour voir ses péchés effacés. C'est lorsque une épine pique le doigt, le pied ou voilà, fait souffrir une personne, un croyant, c'est déjà un quota de péché qui est effacé par Allah Azza wa Jal. Que dire maintenant de la personne qui est malade pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, qui est hospitalisé ou autre? Assurément, c'est un lavage, c'est un rassil, c'est une purification, tatahir, des péchés qui sont cumulés. Et si Allah décrétait que la personne quitte ce monde à l'issue de ce virus, de cette maladie, ben la personne peut être persuadée et ses proches doivent réaliser également que c'était peut-être l'étape ultime pour que ses péchés soient pardonnés avant de retrouver son Seigneur sans qu'il n'ait de péché dans son livret de compte. Nous ne souhaitons bien sûr la mort pour personne ni la maladie pour personne, mais réaliser que si ça se présente à nous, ben c'est là, c'est ce qui résulte du décret divin, et le décret d'Allah Azza wa Jal est rempli de rahmah, de clémence, de miséricorde, de hikmah, de sagesse, de lutf bi'ibadi et de bienveillance envers ses créatures. On continue maintenant avec une citation. On continue de Abu Darda radiallahu anhu, et cela a été rapporté par Ibn Abi Dunya et par Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Abu Darda radiallahu anhu yaqul ma ahda ilayya akhun hadiyatan ahabba ilayya min as-salam. Il dit que jamais un frère ne me fera un cadeau plus appréciable que assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dit qu'un frère me fasse salam, c'est pour moi un grand cadeau. Wala balaghani anhu khayrun a'jabu ilayya min mawtihi. Il n'y a pas une nouvelle qui va remplir mon cœur avec autant de joie. Il n'y a pas une nouvelle qui va me réjouir autant que de savoir que ce croyant a rejoint son Seigneur. Mais là aussi, on doit prendre cette citation dans son contexte avec beaucoup de pincettes, ne pas se dire que le sahaba souhaitait la mort des gens, aucunement. Mais quand il apprenait que telle personne est décédée, ben pour Abu Darda, c'était une bonne nouvelle pour cette personne. Parce que on se resitue dans le contexte. On parle de sahaba, on parle de personnes qui avaient atteint un degré de piété exceptionnel. Pour eux, pour Abu Darda, quand un compagnon, quelqu'un qui a un degré de piété proche du sien ou de l'ensemble des compagnons, pour ce genre de personne, retourner auprès d'Allah, c'est la délivrance. Il sait que la personne est enfin auprès de son Seigneur. Ce qui est synonyme de fin, de la fin des épreuves de ce dunya, de la fin, de la limite des waswasa, des insufflations de shaitan, que la personne ne sera plus jamais en danger spirituel, au contraire auprès d'Allah, et obtenir des récompenses auprès d'Allah. Ce genre de citation, je pense que on aurait du mal à le dire en public, hein, devant trop de gens, parce que ça risque d'être mal interprété, mal compris. Il ne faut surtout pas croire que le croyant ne souhaite pas vivre ce monde et il pense qu'à l'au-delà. Oui, on pense à l'au-delà, sans pour autant que le mu'min ne s'intègre pas dans la société. Ça ne veut pas dire pour autant que le mu'min ne fait pas des efforts pour faire avancer ses concitoyens et lui-même et son nasib, obtenir sa subsistance de ce monde, aucunement. Mais le mu'min, c'est cette personne qui vit en se soumettant au décret divin, qui accepte les décisions d'Allah, les décisions qui lui sont favorables ou entre Dieu mais défavorables. Mais le mu'min, au moment où il rencontre son Seigneur, il sait que c'est le moment le plus important. Pour nous, lorsqu'on nous annonce la nouvelle que telle personne est décédée, certes, nous disons « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », mais intérieurement, on est attristé. Pourquoi ? Parce que on ne verra plus cette personne. On est attristé parce que cette personne ne verra plus sa famille. On est attristé parce que c'est un mari qui a perdu son épouse, ou c'est un enfant qui a perdu ses parents. Donc on est triste et on est peiné par rapport aux sentiments des gens de ce dunya. C'est-à-dire, on n'arrive pas, on n'a pas encore ce niveau de cette conception de la mort, on arrive à se projeter directement par une pensée de l'au-delà. Si on inverse les choses et on ne pense pas au niveau du dunya, mais on réfléchit au niveau du akhira, ben on est heureux que la personne soit enfin au plus haut sommet de sa vie, l'a atteint cette situation où jamais plus elle ne va chuter, jamais plus elle ne risque de s'égarer, et au contraire, elle obtient les récompenses auprès d'Allah, Azza wa Jal. On va conclure avec une citation de Sahal ibn Abdillah. Je répète, c'est une citation, hein. ce n'est pas un hadith. Et justement, ça nous intéresse parce que on a eu l'occasion d'entendre des personnes se plaindre de la situation actuelle et de se dire que plutôt que de vivre confiné ou de vivre dans un contexte anxiogène comme le nôtre depuis un mois et demi, d'avoir peur de la maladie, autant finir, autant mourir. Ce sont des paroles, comme on a dit en introduction, qui sont totalement déplacées. Et justement, la citation que nous voyons, c'est lorsque Sahl ibn Abdillah, rahimahullah, dit « La yatamanna al-mawta illa thalatha » Il n'y a que trois catégories de personnes qui peuvent se permettre de souhaiter la mort. Premièrement, rajulun jahilun bima ba'd al-maut. Premièrement, c'est un homme qui est totalement ignorant et qui n'a aucune notion de la mort et des étapes qui viennent après la mort et des difficultés du monde de la tombe et de l'au-delà de façon générale. Ça veut dire qu'une personne qui est éprouvée de ce monde ou qui vit des situations difficiles, qui souhaite la mort, c'est un jahil, c'est un ignorant. Ignorant dans le sens où la personne ne réalise pas que les difficultés du rara, de ce qu'on appelle également le sakarat, le mort, de l'agonie de la mort, les difficultés de la tombe et les étapes de l'au-delà, ben, c'est mille fois plus complexe que n'importe quelle situation difficile que nous pouvons vivre de ce monde, quelle que soit la nature de l'épreuve que tu vis dans ce monde, quelle que soit l'intensité de ta maladie ou de tes difficultés, cela n'est rien par rapport à la moindre difficulté du akhira, de l'au-delà. Ainsi, une personne éprouvée, ça rejoint ce qu'on a dit en introduction, une personne éprouvée ne doit pas souhaiter la mort pour mettre fin à ses épreuves, parce que la personne ne réalise pas que ce qu'il y a après la mort est beaucoup plus grave et beaucoup plus difficile à supporter. Donc, première personne qui qui peut, enfin, une première personne qui se permet de souhaiter la mort, c'est soit une personne qui est totalement ignorante et qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe après la mort, ou Rajulun yafirru min aqdarillah, et ça rejoint la première catégorie, quelqu'un qui fuit, qui ne veut plus accepter le décret divin et qui veut mourir pour échapper au destin et aux épreuves. Donc là aussi, c'est une preuve de manque de foi et de connaissance. Et troisième catégorie, et ça c'est la bonne, au mushtaqun muhibbun liliqa'illah, ou une personne qui attend avec impatience de rencontrer son Seigneur pour obtenir les récompenses auprès de Rabbul Alamin. Qu'Allah Rabbul Izzah dans sa clémence nous donne ce niveau de foi et de iman qui nous permet de reconsidérer la mort. Et je ne dis pas de l'attendre, mais de s'y préparer. De ne pas voir cette étape comme une fatalité, comme quelque chose de terrible, mais bien au contraire, comme une étape difficile, certes, mais incontournable, qui va donner un sens à toute notre vie et qui nous donne du coup la motivation pour mieux préparer, donc cette étape pour mieux vivre chaque jour de ce monde afin d'être prêt au moment où Allah nous reprend et nous ramène vers lui. Et nous allons conclure, comme pour tout le programme que nous allons faire pendant cette période de confinement et tant que ce virus sera de ce dunya, nous demandons à Allah Rabbul Izzah de protéger chaque mu'min, chaque mu'mina et chacune de ses créatures contre ce virus. Et qu'Allah accorde la santé à toutes les personnes qui en souffrent actuellement. Que leur souffrance ne soit pas, que leur souffrance s'arrête le plus vite possible et qu'ils aient aucune séquelle. Et que les personnes qui ont quitté ce monde à cause de cette maladie, nos frères et sœurs qui ont quitté ce dunya dans des situations difficiles où on entend qu'ils n'ont pas pu bénéficier du salat, la prière, ils en bénéficient, mais du rousl, du bain rituel ou de la présence des proches autour d'eux, qu'Allah Rabbul Izzah les accepte et qu'Allah Azza wa Jal les accepte comme étant des personnes qui ont vu l'intégralité des péchés de ce dunya, de leur vie, pardonnés par Allah Azza wa Jal, et qu'Allah les accueille comme un nouveau-né sans le moindre péché de leur livret de compte, et qu'Allah Azza wa Jal, quatrième doigt, enlève ce balai, cette épreuve de cette Ummah, et que les leçons, nous les retenions rapidement, et que nous prenions les résolutions, le plus vite possible concernant notre rapport avec Allah, notre rapport avec les péchés, concernant notre éloignement de la religion, concernant notre manque d'assiduité aux bonnes œuvres, qu'Allah nous permet à chacun de comprendre la sagesse qu'il y a dans cette grande épreuve et qu'Allah reprend cette maladie et que ce bala s'éloigne totalement de la Ummah et que Inch'Allah, au premier Ramadan, nous serons tous revenus à une vie ordinaire, dans l'obéissance, nous pourrons aller de nouveau à la mosquée et faire nos prières en jama'a et faire notre salat au tarawih et vivre un mois de Ramadan avec encore plus de piété, d'engagement spirituel et de ferveur. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.